Voilà, bonjour Michel Jacode, donc de France Nature Environnement pour cette émission Un moment pour la Terre. Vous pilotez le réseau aménagement et urbanisme de la région PACA. Donc bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de sobriété foncière. Qu'est-ce que c'est que la sobriété foncière?
Donc sobriété foncière, donc on parle beaucoup actuellement de ZAN. ZAN, c'est un sigle que personne ne connaissait il y a 2 ans et que tout le monde entend maintenant, la radio encore ce matin. ZAN, zéro artificialisation nette. Ça renvoie à artificialisation des sols, consommation foncière. Ça renvoie à la question de la sobriété foncière, qui est une question qui est importante depuis longtemps. D'abord, pourquoi cette question de sobriété foncière? Enfin, ce qui se passe, c'est que quand on bitume, quand on construit, quand on goudronne, etc., etc., quand on bétonne, on pose quelques problèmes à la nature. Alors, de plusieurs ordres. Un premier ordre, c'est l'imperméabilisation. Évidemment qu'un sol bétonné, ben, l'eau ne passe pas, et donc elle ruisselle, et donc elle ne va pas dans les nappes phréatiques, parce qu'elle va directement à la mer. Donc ça a deux effets, inondation d'un côté. C'est vrai que dans notre département c'est assez rare, mais ailleurs ça se produit bien entendu. Et puis manque d'eau dans les nappes phréatiques, ça par contre on connaît un petit peu. Ça a un effet évidemment, l'artificialisation, la consommation foncière, etc. L'absence de sobriété foncière, ça a un effet sur l'agriculture. Bon, on voit bien dans le Val de Durance depuis 30-40 ans, beaucoup de terres ont été perdues. Ça a un effet plus profondément sur le stockage du carbone dans les sols. Le stockage du carbone, c'est très important, hein. On parle tous des problèmes climatiques et on sait bien que ça a un rapport. Les sols absorbent beaucoup de carbone à une condition, c'est que le carbone puisse y accéder. À partir du moment où c'est un sol bétonné, les plantes ne poussent pas et donc elles ne transmettent pas au sol le carbone qu'elles sont capables de porter, quoi. Voilà. Donc un problème très important parce que le sol stocke énormément de carbone. Bon, et puis indirectement, quand on construit, ben, on utilise des matériaux, on produit des gaz à effet de serre, etc. etc. et donc tout ça n'est évidemment pas très positif. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas construire. Donc voilà, quelques raisons, il y en a plein d'autres, mais enfin disons, les quelques raisons peut-être les plus importantes pour mettre en avant la sobriété foncière. Bon, il ne faut pas non plus détruire les forêts, etc. etc., etc. Voilà. Alors depuis quand cette question est posée? Ça fait déjà un certain temps en fait. Hein. Bon, depuis, en gros, on va dire, en France, en tout cas, depuis 2000. 2000, c'est la loi SRU. La loi SRU, elle est connue parce qu'on en parle tous à propos des logements sociaux, des HLM, etc. quoi. Vous savez, l'obligation des 20%, 25%, etc. Bref. Mais dans la loi SRU, il y a aussi plein d'autres choses. Et notamment, il y a le fait qu'on doit trouver, lorsqu'on fait de la planification urbaine, la planification de l'aménagement, on doit trouver un équilibre entre, d'une part, une gestion économe, donc des espaces agricoles, naturels, forestiers, hein, et puis le développement qui est nécessaire et indispensable, bien entendu, pour chacun des territoires. Voilà. Donc c'est une vieille question qui revient régulièrement lorsqu'on se préoccupe de planification. En 2018, il y a eu un plan, le plan biodiversité, qui a repris cette thématique de la sobriété foncière en la mettant fortement en avant. Mais c'est juste un plan, il n'y a pas d'obligation derrière, etc. quoi. Voilà. Et c'est donc en 2021, dans le cadre de la loi climat-résilience, août 2021, que parmi un certain nombre d'autres sujets est passée cette notion, cette obligation de réfléchir à cet objectif ZAN, zéro artificialisation nette, à l'horizon de 2050. Alors, zéro artificialisation nette, ça veut dire quoi? Ça veut dire que zéro, c'est plus et moins, quoi. On peut continuer à artificialiser, on pourra continuer à artificialiser après 2050, à condition de désartificialiser l'équivalent, voilà, plus et moins égale zéro. Voilà, zéro artificialisation nette. Alors, le calendrier, donc je parle de 2050. 2050, c'est pas tout à fait demain, mais c'est pas très loin non plus. Donc il y a un calendrier pour aller vers cet horizon 2050, avec une première période qui est la période qu'on vit actuellement, la décennie qu'on vit actuellement, en gros 2021-2031, quoi, dans laquelle la loi dit, ben, nous devons collectivement, au niveau national, consommer 2 fois moins de foncier que ce que nous avons fait dans la période précédente, dans les 10 années précédentes. Donc c'est une règle nationale. Hein. Et cet objectif-là, ben, il faut le traduire localement, au niveau de la région, et puis ensuite au niveau infrarégional, dans ce qu'on appelle les SCOT, les schémas de cohérence territoriale, en gros les grands territoires, quoi. Et puis à l'intérieur des SCOT, dans chacune des communes, les plans locaux d'urbanisme, PLU, les cartes communales, et à défaut, lorsqu'il n'y a pas de document d'urbanisme, et ben, on applique la règle de façon stricte, évidemment. Donc, comment les choses se passent à ce niveau-là? Pour le moment, je vais surtout parler de la période actuelle, en gros la décennie actuelle, sachant qu'ensuite, on doit continuer à réduire cette consommation jusqu'à arriver en 2050, mais 2050 c'est pas bien loin, hein, arriver à un zéro artificialisation net à partir de 2050. Donc, sur la première période, ben, l'organisation de ce calendrier se déroule en plusieurs temps. Un premier temps, c'est ce qu'on appelle les SRADET, les schémas régionaux, d'aménagement, développement, équilibre du territoire, etc. Les SRADET, en PACA, en région PACA, on vit avec un SRADET actuellement qui a été élaboré, approuvé, voté, etc. en 2019, fin 2019. Il est actuellement, comme tous les schémas régionaux, en cours de modification pour tenir compte, justement, de la nouvelle loi climat-résilience, de ce fameux objectif ZAN en 2050, et sa traduction dans la première décennie. Ce nouveau SRADET, il sera officiel, en principe, en novembre de cette année-ci, 2024. Et un certain nombre de discussions qui sont en cours actuellement. La région n'avance pas très très vite, semble-t-il. Mais bon, c'est effectivement, objectivement, compliqué. Ensuite, lorsque ce SRADET sera effectif, bon, donc les SCOT, les schémas de cohérence territoriale, devront s'aligner sur ce SRADET. Alors, les SCOT, qu'est-ce que c'est où est-ce qu'on a, à quoi ça correspond? Dans notre département, on a un SCOT qui est relativement ancien, il s'appelait autrement avant, mais peu importe. C'est celui d'LVA, l'agglomération de Manosque. On a un nouveau SCOT qui vient d'arriver, c'est le SCOT Alpes-Provence-Verdon, donc du côté sud-est du département. Et puis on en a deux qui sont en cours d'élaboration. Celui de la CCSB, la communauté de communes Sisteron-et-Buèche, donc qui est à cheval sur 0405. Et puis un petit bout de Drôme, d'ailleurs, au passage. Et puis celui de P2A, celui de Digne, de Provence-Alpes-Agglomération. Voilà. Donc on redescend à ce niveau-là, au niveau des SCOT. Les SCOT devront être mis devront être rendus compatibles avec le nouveau SRADET à l'horizon de 2027, début 2027. Et ensuite les PLU, les cartes communales, à l'horizon de début 2028. Voilà. Il y a aussi dans cet horizon ZAN, et notamment pour la première décennie, la prise en compte d'un certain nombre de grands projets qui dépassent le cadre local. Alors, l'exemple le plus simple à comprendre, c'est par exemple une ligne TGV. Une ligne TGV, elle circule, elle passe sur un certain nombre de territoires, mais elle dessert essentiellement les territoires dans lesquels il y a des gares. C'est-à-dire elle dessert l'amont et l'aval, en quelque sorte. Mais lorsqu'elle passe, lorsqu'elle traverse une commune, ce n'est pas les gens de la commune qui bénéficient du TGV. Ils en bénéficient comme tout le monde dans l'ensemble du pays, quoi. Voilà. Donc, le législateur a pris la bonne initiative, très heureuse, de mutualiser la consommation foncière, qui est indispensable pour réaliser ces grands projets, mutualiser entre l'ensemble des régions. Et donc, chacune des régions voit donc son potentiel de consommation réduit un petit peu. Et au lieu de réduire de 50% par rapport à la décennie précédente, on réduit en fait de 54,5%. Voilà, c'est ça la règle actuelle dans l'ensemble des régions, sauf en Île-de-France, qui a toujours un statut évidemment un peu particulier. Voilà. Alors, des grands projets, c'est quoi? Ben, par exemple, les TGV dont j'ai parlé tout à l'heure, ça peut être des prisons. Par exemple, une prison, évidemment, elle est localisée à un endroit, elle ne dessert pas du tout la commune dans laquelle elle se trouve, quoi. Du moins, ce n'est pas l'objectif, quoi, a priori. Voilà. Elle dessert un ensemble beaucoup plus vaste, bien évidemment, quoi. Voilà. Bon, on trouve aussi, ben, par exemple, des lignes électriques, etc., etc. On va en avoir besoin, et de plus en plus, de façon évidente, hein, si on change de notre façon d'utiliser l'énergie. Mais on trouve aussi un certain nombre de projets routiers, ça nous plaît beaucoup moins au niveau de France Nature Environnement. On aurait préféré des projets ferroviaires, par exemple, hein, il y en a un petit peu, mais il y a quand même beaucoup de projets routiers. Bon, certains sont évidemment utiles et d'autres sont peut-être pas tout à fait indispensables, enfin ne correspondent pas vraiment au mode de développement qu'on voudrait avoir. Mais bon, on trouve aussi un certain nombre de projets industriels qui ont un certain sens. On parle d'industrie verte, bon, pourquoi pas. Voilà. Donc sur cette thématique-là, nous, a priori, on est favorable dans l'idée. C'est une bonne idée, cette mutualisation, même si, évidemment, ça réduit le potentiel, disons, pour chacun des petits territoires. Voilà. Alors, par rapport à toutes ces... Voilà, un peu pour l'histoire, disons. Par rapport à tout ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions avant la loi et après la loi et depuis la loi, etc. Et la discussion continue. On entend tous les jours parler de tout ça. Avec des arguments qui se... Ben, certains se tiennent debout, bien entendu, mais la plupart sont quand même vraiment, vraiment discutables. Donc je vais peut-être parler un petit peu des critiques qui ont été apportées.
Alors, de ceux qui sont discutables.
Oui, on va commencer par ça, c'est plus facile.
D'accord.
Voilà. Donc, des critiques. Il y en a eu d'abord beaucoup avant la loi, enfin juste avant août 2021, quand elle a été votée, quoi. On rappelle qu'elle a été votée quasiment à l'unanimité, hein. Mais bon, ça n'a pas empêché un certain nombre de gens... Avant la loi, c'est normal, d'expliquer en long et en large que c'était impossible à faire et que voilà, ça ne tenait pas debout, etc., etc. Et puis après, finalement, de considérer que ben, l'un dans l'autre, c'était peut-être jouable, quoi. À condition de s'y coller pour de vrai, quoi. Bon. Des critiques un peu générales. Ben, je vais vous en citer quelques-unes. Hein. La première, c'est bon, le ZAN, donc l'objectif ZAN, zéro artificialisation nette, hein, mettrait en péril le volume de construction qui est absolument indispensable, quoi. Mais bon, derrière le mot indispensable, la question se pose tout de suite, quoi. Quand on écoute les uns ou les autres, on entend des chiffres sur le niveau qui est indispensable qui sont radicalement différents, quoi. Certains parlent de 600 000 logements à construire par an. On n'a jamais construit ça en France, hein, sauf dans les années 60, hein, enfin, un moment où il y avait un besoin de construction des années 50-60 qui était extrêmement fort, quoi. Bon, d'autres... plus raisonnable, parle de 370 000, 400 000 dans ces eaux-là, quoi. Bon, voilà. Le nombre de logements indispensables, évidemment, n'est pas une évidence naturelle absolue, quoi. J'ai une deuxième critique qui fait bien son chemin actuellement, c'est en augmentant les prix du foncier, quoi, le ZAN limitera forcément la construction sociale, sous-entendu les HLM, etc., quoi. Voilà, au sens large, hein. Voire même le ZAN serait la cause de la crise actuelle du logement dont tout le monde parle depuis deux ans. Sauf que le ZAN, depuis deux ans, encore une fois, le ZAN c'est 2050. Hein. Il ne s'est rien passé dans la réalité sur le terrain depuis la loi de 2021. On est juste dans la planification du futur. On n'est pas dans la réalisation. Donc ça ne peut pas être le ZAN qui soit la cause de la crise du logement. Ça n'a aucun sens. Hein. Il y a bien d'autres raisons. J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure. Hein. Il y a d'autres critiques qui sont peut-être plus intéressantes par certains côtés, qui disent, bon, le ZAN, c'est une vision arithmétique, hein, plus, moins, égale zéro, enfin bref, voilà, mais c'est pas un projet. Bon, ça, c'est une critique a priori qu'on peut recevoir. Hein. C'est important de réfléchir à un vrai projet. Mais en fait, le ZAN, justement, c'est l'occasion, pour de vrai, de réfléchir à un vrai projet. C'est-à-dire de bien réfléchir à ce qui est utile, indispensable, et ne pas se dire, bon, après tout, ben peut-être que on va avoir beaucoup d'habitants qui vont arriver, beaucoup de nouveaux habitants, peut-être qu'il y a des entreprises qui vont s'installer, peut-être que, etc. Et donc, on ouvre à l'urbanisation, dans le cadre de la planification, des plans locaux d'urbanisme, etc., on ouvre des zones qui sont, en réalité, à peu près inutiles. Une autre critique, c'est, bon, mais on descend maintenant au niveau plus local, quoi. Les élus locaux, qui sont responsables, hein, ne pourraient plus penser le développement de leur territoire, quoi. Alors, je vais juste vous rapporter quelques chiffres qui ont été publiés par le CEREMA il n'y a pas longtemps, c'était en décembre dernier. En gros, leur analyse portait sur 12 000 communes ayant des PLU. Toutes les communes n'ont pas un PLU, loin de là, hein. Vous savez bien, PLU, encore une fois, plan local d'urbanisme. Bon, 12 000 communes. Sur ces 12 000... ces PLU organisaient 62 000 zones à urbaniser. 62 000 zones d'extension, en dehors des villes actuelles, quoi, à urbaniser, donc qui sont consommatrices d'espaces naturels, agricoles et forestiers lorsqu'elles seront mises en œuvre pour de vrai, bâties, quoi. Donc, sur ces 62 000, actuellement, il y en a 45 000 qui sont totalement vides. Ça représente 145 000 hectares. 145 000 hectares, pour avoir des ordres de grandeur, hein. On parle actuellement d'une consommation à venir pour la décennie actuelle, là, qu'on vit actuellement, de 125 000 hectares au total. Donc voilà, il y a actuellement 145 000 hectares de zones qui sont prévues dans les plans d'urbanisme, dans les plans d'urbanisme de ces 12 000 communes, c'est-à-dire ce n'est pas l'intégralité des plans d'urbanisme, c'est une bonne partie. Il y a 145 000 hectares qui sont déjà prévus. Voilà. Bon, ces communes consomment en gros 14 000 hectares par an, c'est-à-dire un dixième, quoi. Donc on pourrait se dire finalement on a une réserve en gros de 10 ans. En réalité, les communes en question, elles investissent un peu dans ces zones d'urbanisation future, mais beaucoup dans les zones urbaines actuelles qui existent d'ores et déjà. Il n'y a qu'une petite partie qui va dans ces zones en extension, en gros 13%. Quoi. Ça veut dire, et c'est assez intéressant à voir, le CEREMA conclut en disant ben finalement, actuellement, dans les PLU existants, on a de quoi faire pour, si on réduit de moitié les rythmes de consommation, on a de quoi faire pour 160 ans. 160 ans. Ce qui est gigantesque, quoi. C'est pour dire que les élus locaux ont réalisé de la planification depuis en gros 10-15 ans, qui est hors mesure, disons, des besoins effectifs. 160 ans, vous vous rendez compte ? Voilà. En fait, la bonne réponse, elle passe par la complémentarité à trouver entre les différentes communes et la réflexion sur des projets qui tiennent debout, quoi. Alors, il y a une autre critique que moi je trouve amusante, donc je la mets en avant, et puis que c'est une critique qu'on partage par bien des côtés, c'est le ZAN, donc c'est zéro artificialisation nette, ne tient pas compte de la qualité des sols. Alors c'est une critique qui est amenée par l'Union des aménageurs. Les aménageurs disent, mais finalement quand on regarde bien les sols agricoles qui sont en monoculture, intensive, etc., etc., depuis des années, bon, ces sols-là, c'est comme s'ils étaient artificialisés, quoi. Ils sont déjà artificialisés, en fait. C'est pas faux, hein. Effectivement, ces sols-là ont perdu à peu près toute valeur, hein, et ils n'ont de valeur agronomique que parce qu'on remet dessus des engrais en permanence, etc., etc., quoi, voilà. Bon, donc par certains côtés, c'est pas faux. Mais c'est très amusant de voir des organismes, des lobbies, on va dire, qui sont très contre cet objectif de ZAN, et en rajouter encore plus, hein, vouloir plus pour aller contre ce qui est proposé. Bon, voilà, le mieux est l'ennemi du bien, de temps en temps. Bref, beaucoup de défense d'intérêts économiques et institutionnels, comme c'est la vraie vie, quoi, en quelque sorte. Alors, sur le monde rural, parce que le 04 est quand même beaucoup concerné par la ruralité, c'est le moins qu'on puisse dire. On n'est pas la métropole de Marseille. Hein. Sur le monde rural, il y a des difficultés particulières qui sont mises en avant et des remèdes, des soi-disant remèdes qui ont été avancés et qui sont là dramatiques. Le ZAN empêcherait donc le développement des communes rurales que pourtant beaucoup de nombreux Français souhaiteraient habiter. Alors sur la deuxième partie de la phrase, c'est assez juste, sur la première partie, c'est faux. En réalité, les arguments qui sont avancés, c'est de toute façon, c'est les métropoles qui consomment tout. La réalité vraie, c'est que les métropoles ne consomment pratiquement rien. Hein. En gros, sur les 10 dernières années, donc, qui servent de référence, hein, les 22 métropoles ont consommé 7% de la consommation foncière. 7%. Et avec ces 7%, ils ont accueilli 2/3 des habitants supplémentaires et à peu près 100% des emplois. Pas tout à fait, mais quasi. A l'inverse, les 31 000 communes, vous savez qu'on a 35 000 communes en France, hein, les 31 000 communes peu denses, donc le rural plutôt un peu profond, etc., ont consommé 67% de la consommation, donc les 2/3. Hein. Et tout ça pour accueillir très peu d'emplois et très peu de ménages, en réalité. De manière donc très peu efficace. Beaucoup d'espace pour un ménage ou pour un emploi. Beaucoup plus, évidemment, que dans une métropole. Donc cette critique est évidemment une mauvaise critique. Et alors, la critique, c'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est les réponses. Et la réponse est encore plus mauvaise. La réponse, ça a été ce qu'un sénateur proche d'ici, hein, du Vaucluse, en l'occurrence, a porté à bout de bras et a réussi à faire passer à peu près, pas tout à fait ce qu'il voulait, mais quasi, c'est ce qu'on appelle la garantie communale. C'est-à-dire qui consiste à dire que chaque commune, petite ou grande, mais il parle des petites en l'occurrence, chaque commune, donc les fameuses 31 000 communes, ont droit à au moins un hectare pendant les 10 années qui viennent, là, un hectare de développement. Alors, pour une commune importante, un hectare, ça paraît ridicule, etc. Bien sûr, pour une petite commune, c'est pas rien du tout. Il y a beaucoup de communes qui ne consomment pas du tout, ou qui consomment bien moins d'un hectare ou deux hectares, quoi. C'est exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Alors, je cite, pour me sentir pas isolé dans ce débat, que la région, par exemple, notre région, PACA, région sud, comme certains l'appellent, dans le Stradet de 2019, avait pris une position qui était une très très bonne position. Elle disait, en fait, ce qui est important pour soutenir la ruralité, c'est un vrai souci, une vraie question, c'est de développer ce qu'on appelle les centralités locales, c'est-à-dire non pas les petits bourgs, non pas les petits villages, les petits hameaux, etc., mais de soutenir les bourgs ruraux, les bourgs un peu importants, les toutes petites villes, quoi, qui en fait offrent à l'ensemble de leur territoire tout un tas de services, de commerces, etc., etc., qui font que l'ensemble du territoire fonctionne, et non pas chacun des petits villages, quoi. Par exemple, le Sradet disait donc, ben voilà, tel territoire, tel SCOT aura droit à tant d'hectares, etc., etc. Mais comme il y a des centralités locales qu'on veut soutenir, elles auront droit en plus à 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, etc. Dans le cadre de P2A, donc là où on se trouve à Digne, ben il y a deux centralités locales qui ont été reconnues, c'était Château-Arnoux et puis Seine-les-Alpes. On ne parle pas de Digne. Digne, bien sûr, c'est la grande ville. Bon, elle a droit, comme tout le monde, etc. Bien sûr. Mais voilà, les deux centralités locales qu'il faudrait soutenir. C'était ça la bonne stratégie, la bonne idée, quoi. Inversement, donner à chaque petit village son hectare, ça consiste en quoi? Ça donne quoi? Alors, je prends l'exemple de la communauté Sisteron-et-Buèche. Donc, il y a une soixantaine de communes. Il y a une très grosse commune au milieu, c'est Sisteron, qui fait 7000 habitants, quoi, 7500, quelque chose comme ça. Puis il y en a une deuxième, c'est la Ragne, qui fait 3000 habitants et quelques. Et puis c'est tout. Tout le reste, toutes les autres communes sont inférieures à ça, sont des toutes petites communes, quoi. 60 communes. La CCSB, quand on regarde sur les 10 ans à venir, et qu'on compare avec les 10 ans passés, si on doit réduire de moitié, comme c'est la règle, en gros, 54,5% dont je parlais tout à l'heure de réduction, quoi. Bon, lorsqu'on doit réduire de moitié, son potentiel, en gros, c'est de l'ordre de 70 hectares. Si on a 60 communes, 60 multiplié par 1, ça fait 60. 60 hectares sur 70 hectares, il ne reste plus rien pour l'ensemble du territoire, quoi. Voilà. Et il y a plein de... Enfin, il y en a plein. Il y a un certain nombre de collectivités, de communautés de communes, d'agglomérations, en particulier la Drôme, qui est toute voisine, mais pas uniquement, en Normandie, un peu partout, dans lesquels ce problème-là est insoluble. C'est pas possible, quoi. Voilà. Donc c'est un très mauvais outil. Et ce que dit la CCSB, la collectivité donc, de Sisteron-et-Buèche, à ces différentes communes, je l'ai entendu encore il y a une dizaine de jours, c'est qu'il faut qu'on mutualise entre les communes notre consommation. Il faut qu'on réfléchisse ensemble pour faire comme il faut les choses. Voilà. Et pas chacun pour soi, quoi. Voilà. Donc, en fait, notre constat, globalement, c'est qu'on est. Le mode de développement que mettent en avant les élus est basé sur la volonté ou l'illusion de ce qu'on appelle l'attractivité. L'attractivité, c'est un mot qu'on retrouve dans tous les schémas de cohérence, dans tous les PLU. On parle toujours d'attractivité. On se demande où les gens vont rester, d'où vont venir tous ces gens qui n'ont qu'un souci, c'est de venir s'installer là où on.
Il y a de l'attractivité, oui.
Là où il y a de l'attractivité, voilà. Bon, et puis le deuxième mot, qu'on n'emploie pas, parce que c'est un mot qui serait négatif, mais qui en fait sous-tend tout ça, c'est la concurrence entre territoires. C'est-à-dire chacun pour soi, et puis on va être le plus attractif par rapport aux autres, donc évidemment. Donc, c'est ça la concurrence. Alors je vais prendre un ou deux exemples rapidement. Prenons la DLVA. DLVA, c'est pas bien loin d'ici quand même, c'est Manosque, vous connaissez tous. DLVA, bon... a connu, mais comme l'ensemble du 04 d'ailleurs, et le 05 aussi un petit peu, a connu un développement très fort dans la décennie 90-2000. Il y a eu une pointe assez extraordinaire. C'était vrai dans d'autres départements, mais en tout cas, chez nous, c'était très très marqué, quoi. on avait un taux de croissance annuel, hein, en termes de population, de 1,5% par an. C'est énorme, 1,5% par an. Hein. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Quoi. Voilà. Bon, constat, c'est comme ça. Hein. Ça n'a pas duré très très longtemps. Hein. Dès, en gros, la fin de la période, autour de l'année 2010, quoi, un peu avant, un peu après, quoi, tout ça s'est beaucoup restreint. On est passé de 1,5 à 0,9% par an. Ça reste encore très élevé. Hein. Et puis, bon, pour la France entière, juste les chiffres équivalents, c'était 0,7% par an pendant la décennie, et puis la descente à 0,5%. Donc, pareil, une réduction pour la France entière. Donc, voilà. On n'est pas étranger à la France. Enfin, on est forcément, c'est un peu comme ailleurs, quoi. Faut pas, voilà. Bon, donc voilà le constat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des élus et dans le discours des élus? Ben, ils étaient en train de faire un SCOT. Voilà, très bien. Et dans le SCOT, ils ont dit, bon, on constate 0,9%, mais nous, on va se mettre à presque 1,2, 1,17, enfin bref, 1,2% par an. Hein, parce que chez nous, quand même, on est tellement attractif et on va l'être encore plus, quoi. Voilà. Bon. Ça, c'était en 2017. Hein. Donc, on est beaucoup intervenu, on n'était pas seul, mais en tout cas, on est beaucoup intervenu par rapport à ça pour dire, non, c'est pas raisonnable, vous êtes en train de faire des bêtises, quoi. C'est pas raisonnable du tout. Et donc, ça a conduit à ce que, finalement, le SCOT redescende à 0,9% par an. Ce qui est quand même pas mal. Au passage, en termes de traduction foncière, parce que c'est ça notre sujet, hein, la sobriété foncière, sur les 500 hectares que voulait urbaniser, enfin que prévoyait d'urbaniser le SCOT DLVA, on a gagné, on a perdu, c'est comme, je sais pas comment il faut dire, 100 hectares, hein, 100 sur 500, c'est pas rien. Hein. Voilà. Donc voilà un exemple typique de la façon dont les choses sont pensées et les effets que ça peut avoir. Alors, au passage, la dure réalité est la suivante, c'est qu'en fait, sur la période la plus récente, en gros, les 5-6 de ces dernières années, la croissance, elle est de 0,6% seulement, même pas de 0,9%. Hein. Voilà. En France, tout à l'heure, je vous donnais les chiffres, on était passé de 0,7% à 0,5%. Maintenant, sur la même période, on est à 0,3% à peu près. Hein. En France, la population continue à croître, mais un peu moins vite. Quoi. Voilà. Bon. Je peux prendre un deuxième exemple, toujours sur DLVA, sur Manosque. Manosque, donc la ville-centre, hein, qui vient de faire un nouveau PLU. La ville-centre est beaucoup moins attractive, dans la réalité, je ne parle pas dans le discours, mais dans la réalité, est beaucoup moins attractive que les communes voisines, qui proposent ce qu'on appelle des aménités, qui proposent plus d'aménités à leurs habitants. Le cadre de vie est plus facile, etc. etc. Enfin, bon. Ça ne veut pas dire qu'il y ait personne qui veuille habiter à Manosque, ce n'est pas ça, mais peut-être un peu moins que ceux qui peuvent espérer habiter à proximité. Quoi. Et donc, Manosque planifie dans son PLU un rattrapage de cette perte de compétitivité, c'est le terme qu'ils emploient. Donc, concurrence, compétitivité, voilà, hein, voilà, c'est un exemple. Hein. Et elle souhaite donc, c'est dans les termes du PLU, hein, asseoir le rôle de pôle principal de Manosque. Et pour ça, elle prévoit la construction de 160 logements par an. Je vous assure, on a fait les calculs, refait les calculs dans tous les sens. La moitié suffit pour accueillir la population qui va arriver évidemment à Manosque. Quoi. Donc voilà, on est dans ce système-là qui n'est pas très réaliste. Alors, bon, j'ai parlé des défauts, des critiques négatives. Bon, passons maintenant plutôt au positif, c'est-à-dire essayons de trouver des bonnes réponses qui permettent d'avancer sur cette question-là. Quoi. Alors d'abord, il y a une réponse d'ordre général, mais que vous avez déjà bien comprise au vu de ce que je viens de vous raconter. C'est en gros, il y a la sobriété démographique qui est en train d'arriver à la rescousse de la sobriété foncière. Quoi. Sobriété démographique, vous avez compris, donc la population française continue à augmenter, mais moins vite que dans le passé. À l'horizon 2050, c'est-à-dire l'horizon du ZAN, hein, encore une fois, c'est un objectif 2050, hein, à cet horizon-là, bon, ce qui est prévu actuellement par les autorités capables de faire ce genre d'exercice, c'est une stagnation de la population, même un début de décroissance. Voilà. Ce n'est pas forcément vrai partout, bien sûr. Hein, il y a des régions pour lesquelles c'est moins vrai que d'autres, etc., etc. Mais quand même, c'est un point assez fondamental. Quoi. Deuxième élément, c'est la structure par âge de la population change. On vieillit tous naturellement, c'est normal. Et par ailleurs, et ça c'est par contre très nouveau, il y a beaucoup moins d'enfants. Bon, l'un plus l'autre fait que ce qu'on appelle le desserrement, c'est-à-dire le fait que la taille des ménages diminue, ce qui est un phénomène important et de longue, enfin, qui explique beaucoup le besoin, une bonne partie du besoin en résidence principale, enfin en logement. Cet effet-là de réduction de la taille des ménages, bon, de la même façon, les organismes qui sont chargés de faire des projections à ce niveau-là, l'INSEE en l'occurrence, prévoit que pour 2050, ça continuera à exister, ça continuera à avoir un effet, mais de façon très très réduite. Et donc le besoin en logement, il va continuer à être positif, mais beaucoup plus réduit qu'il n'est actuellement, mais de façon très très importante, quoi. Donc le besoin en résidence principale est en train de s'atténuer. Alors c'est pas brutal, c'est pas d'un coup, mais c'est petit à petit. Et donc les documents de planification qui sont en cours devraient normalement dire, bon, en gros, pour les quelques années qui viennent, là, les 10 premières années, on va quand même avoir des besoins encore un peu conséquents. Pour les 10 années suivantes, logiquement, normalement, nos besoins devraient un peu diminuer en termes de logement, j'entends. Bon, actuellement, il y a une crise de logement, on en parle tous les jours. Bon, cette crise de logement, elle vient d'un tas de raisons qui sont bien antérieures aux ZAN, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Elle repose sur la question des taux d'intérêt extrêmement faible qu'on a connu pendant très longtemps. Donc les prix de l'immobilier ont énormément monté. Quand les taux d'intérêt baissent, les prix de l'immobilier montent. C'est simple à comprendre, c'est très facile. Bon. Et une deuxième chose, c'est que sur le logement social, bon, la politique qui a été menée par le gouvernement depuis quelques années, depuis 2017, 2018 en l'occurrence, non, 2017 même, a été très négative, c'est clair. Et donc s'il y a un peu moins de logement social, ça met sensiblement plus de gens à la porte du logement social, et donc se reporter sur ce qu'on appelle le logement intermédiaire de façon un peu large. Et donc, par effet de ricochet, il y a un effet de crise qui s'installe de manière très importante. C'est ça qu'on est en train de vivre actuellement. Ça n'a aucun rapport avec la ZAN, quoi, c'est clair. Alors, au niveau local, là, j'ai donné plutôt des indications au niveau national. Encore une fois, cette sobriété démographique, entre guillemets, va nous aider, c'est clair, c'est une évidence. Au niveau local, alors, les prévisions pour le 0,4 et le 0,5, dans le cas du SRADET, donc j'ai parlé tout à l'heure, le schéma régional, le SRADET dit sur le 0,4-0,5, on prévoit une croissance sur les 20 ans de en gros 0,6% par an. Bon. On n'est pas du tout à ce niveau-là. Actuellement, on est à 0,3% dans le 0,4. Et dans le 0,5, à côté, les Hautes-Alpes, on est à 0,1%. Très très en dessous, c'est en gros une stagnation, quoi. Très en dessous des objectifs du SRADET. Et pour l'horizon 2050, les projections qui sont faites, elles sont négatives. Un peu pour les Alpes de Provence et sensiblement pour les Hautes-Alpes. Alors, les projections se trompent toujours, bien sûr, mais un peu, pas trop quand même. Voilà. Bon. Et donc, ce phénomène-là de prévision trop élevée se retrouve exactement de la même façon dans les différentes SCOT existants et dans les SCOT qui commencent à voir le jour, qui sont en cours de discussion, y compris sur P2A, on a cette même difficulté. Alors, par rapport à ça, on a quand même des réponses possibles. D'abord, et c'est vrai surtout en mode dans le monde rural au sens un peu large, on a un patrimoine bâti mobilisable qui est très important. À la fois pour plus de sobriété, c'est l'objectif dont on discute là à l'instant, mais aussi pour la qualité de vie que ça peut présenter. Bon, beaucoup de villages ont eu, encore une fois, l'exode rural, c'est une réalité vraie qu'on a vécue pendant un siècle. Bon, c'est passé de mode, certes, on parle maintenant d'exode urbain, même s'il faut relativiser la chose, mais quand même, ça veut dire qu'en fait, en termes de patrimoine bâti, beaucoup de villages, certaines villes aussi, ont un patrimoine bâti existant qui est en mauvais état, mais qu'il faut récupérer. Alors, c'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup de logements vacants. Ces logements, ils ne sont pas tous utilisables du jour au lendemain. Il y a des problèmes énergétiques, etc. etc. Ça, tout le monde est bien d'accord là-dessus. Donc, il faut mettre beaucoup d'efforts, mais on a beaucoup d'aide par rapport à ça. Il y a beaucoup d'institutions qui aident. Bon, je citerai par exemple l'EPF, l'établissement public foncier régional, qui apporte beaucoup d'argent pour soutenir l'ensemble, qui avance l'argent en fait pour soutenir l'ensemble. L'ANA, l'Agence pour l'amélioration de l'habitat, etc. etc., etc. Bon, il y a beaucoup d'instances qui permettent de faire ce genre de choses. On peut être aidé et on peut arriver à faire ça, mais encore faut-il le faire, de vouloir le faire. Et savoir que ça prend évidemment beaucoup plus de temps que de dire, bon, le champ d'à côté, bah, écoutez, on va construire dessus des maisons. Donc du côté habitat, je pense qu'il y a des possibilités qui sont extrêmement importantes. Un petit mot sur les activités, parce qu'il n'y a pas que l'habitat, il y a aussi toutes les activités économiques qui sont indispensables, c'est clair. Hein. Bon, alors d'abord, en gros, toute implantation d'activités hors des zones déjà urbanisées devrait être interdite. Bien sûr, avec un bémol, celles qui portent des nuisances, c'est clair qu'on ne va pas les mettre au sein d'un village ou d'une ville, ça c'est une évidence. Hein. Mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart n'apportent pas de nuisances. Alors on commence par les commerces. Les commerces, bon, ici comme ailleurs, là actuellement à Digne, je viens de traverser une zone qui est une zone...
C'est assez déserté.
Oui.
Beaucoup de commerces qui ferment, oui.
Voilà, une zone d'activité commerciale passablement en déshérence. Mmh. Voilà, exactement. Donc, du côté commercial... Il ne faut plus qu'il y ait la moindre construction de zone commerciale. C'est quelque chose d'absolument maintenant proscrit. Hein. De grandes zones, mais aussi des petites zones. Alors, quand on parle... Bon, ce qui est interdit, c'est les zones de plus de 10 000 mètres carrés. Bon, ce qui est assez gros, c'est déjà des zones importantes. Quoi. 10 000 mètres carrés, c'est un hectare. Quoi. Hein. Bon, dans le cadre 04 de, en gros, nos petits villages, nos petites villes, c'est plutôt des zones plus petites. Ce n'est absolument pas évidemment une raison pour les autoriser. Hein, il faut vraiment aller contre ça, hein, et il faut développer les commerces qui sont en centre-ville, en centre-village. Centre-village, il n'y en a plus beaucoup, mais en centre-ville, il y en a encore, heureusement. Et il faut continuer à développer. Et puis surtout, il faut commencer à réfléchir à la réutilisation de ces zones qui, bon, pour certaines d'entre elles, effectivement, sont beaucoup en déshérence. Quoi. Il y a beaucoup de places disponibles. Donc ça, c'est pour les commerces. Du côté industriel, bon. Les industries, c'est très important, il faut les développer, les redévelopper. Là-dessus, on est tous d'accord, je pense. Pour ça, ben, prenons l'exemple de P2A. P2A, dans le projet de Scott qui est discuté, dont le projet lui-même a été le PAS, on appelle ça comme ça, dans le jargon urbanistique, qui a été donc discuté au niveau de l'Assemblée, enfin du Conseil communautaire. Bon, le PASS annonce que l'ensemble des zones et des espaces d'activité économique arrivent à saturation. Alors, bon, ça laisse un peu rêveur. Prendre l'exemple de la Cassine, il y a quand même encore une trentaine d'hectares possibles à la Cassine, si j'ai bien compris. C'est dans les documents. Hein. Et puis, il vient de paraître, c'est la semaine dernière, un document qui s'appelle « Les sites clés en main de France 2030 ». Donc c'est une volonté de l'État d'essayer de trouver des sites, effectivement, du foncier disponible à court, moyen terme, peut-être long terme, mais en tout cas court, moyen terme, pour développer des industries dont on a besoin. Bon. Et dans ce document-là, quand on l'épluche un petit peu, on découvre qu'à Château-Arnoux, bon, donc évidemment sur le site d'Arkema, quoi, un site qui est pollué, etc., c'est clair, mais néanmoins il y a 61 hectares qui sont disponibles entre 2025 et 2027. 61 hectares. Vous vous rendez compte ? Il y a de quoi faire. Hein ? Voilà. Voilà, c'est un bon exemple. Alors, il y a bien d'autres emplois. Il y a un tas d'emplois tertiaires en dehors du commerce, hein, des emplois de service, etc., des emplois administratifs, etc., etc. Sauf exception, tout cela doit être logé en ville et non pas dans les zones d'activité. Hein. Je pense qu'il y a des contre-exemples. Il suffit de regarder. Actuellement, bon, même à la Cassine, par exemple, qui est une zone récente, il y a des activités qui ne devraient pas être dans une zone d'activité. Qui devraient être en ville, c'est clair. Voilà. Bon, je comprends, c'est à côté de l'autoroute, etc., c'est sympathique et tout, mais enfin quand même. Le centre du Crédit Agricole Régional, construit à Manosque, à côté de l'autoroute, et pas en ville, ça laisse rêveur quand même. On aurait fait ça il y a 20 ans, bon, tout le monde aurait compris, enfin, on aurait trouvé ça normal. Maintenant, c'est complètement désespérant. Bon, tout ça, en fait, la façon de faire, c'est de développer ce qu'on appelle le renouvellement urbain, c'est-à-dire la ville sur la ville. Et non pas les extensions. Des extensions sont indispensables, actuellement, c'est clair, hein, mais de façon très modérée, et il faut chaque fois réfléchir sur ce qu'on peut faire dans et sur la ville. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il faut réfléchir très, très sérieusement à la complémentarité entre les communes. J'ai donné plusieurs exemples tout à l'heure, hein, où on met en avant justement l'absence de complémentarité, la concurrence entre ces différentes villes.
En conclusion sur cette partie-là, sur notre territoire 04, donc aider au développement des centralités plutôt que de chacun des villages. Hein. Encore une fois, l'idée de la région, dans le cas de son SRADET, qui donc, va être modifiée, et je ne sais pas ce qu'il en ressortira maintenant, était une très très bonne idée. Quoi. Si on fait de la planification, il faut faire de la planification, c'est indispensable. Et si on l'a fait, il faut la faire en coopération entre les communes, et pas chaque commune dans son petit coin. Quoi. Donc c'est bien que dans le 04, on ait maintenant des SCOT qui sont en train de naître, hein, je parle P2A, CCSB, bon, c'est une très très bonne nouvelle, mais il faut aller tirer la corde jusqu'au bout, hein, et faire que ces PLU fonctionnent. Un petit mot peut-être pour terminer.
On arrive à l'intervention de France Nature Environnement 04 voilà. Sur les sujets. Donc.
Voilà, bah, je vais être très bref parce que on fait en gros ce qu'on peut. On commence d'abord par essayer d'analyser un peu les projets des uns et des autres en matière d'urbanisme, d'aménagement, pour essayer de bien comprendre, hein, puis de bien évaluer, disons, positivement, négativement, ce que préconisent donc les élus des différents niveaux, communes ou intercommunalités. Quoi. Plus on arrive à travailler en amont avec les élus, mieux on se porte collectivement. Je veux dire, on n'a pas toujours raison, ça c'est sûr, mais néanmoins, je pense qu'on peut apporter un peu notre grain de sel de façon intéressante et positive. L'exemple de ce que j'ai cité tout à l'heure sur DLVA entre le SCOT initialement prévu et celui qui a été approuvé montre quand même que la réflexion n'est pas forcément inintéressante venant de France Nature Environnement. Bon, on participe à un certain nombre de commissions diverses qui doivent donner un avis sur ces différents projets de planification. Et heureusement, on n'est pas toujours entendu. Bien sûr, on n'est pas les seuls sur Terre. Mais enfin, disons, on essaye de porter un certain nombre de raisonnements, d'arguments. Bon. Mais ce ne sont pas des arguments du genre « on est contre parce qu'on est contre hein. ». On est contre parce qu'éventuellement, on se dit qu'il y a une autre façon de faire pour arriver au même résultat. Hein. Et parfois, on est contre aussi parce qu'on pense que le résultat qui est visé, en particulier, je parlais tout à l'heure d'attractivité, cette fameuse attractivité, ce résultat-là n'a aucun sens. Hein. C'est se raconter des histoires et pas le contraire. Hein. Voilà. Ça ne nous empêche pas d'avoir de bonnes relations avec la plupart des élus, mais d'apporter notre petit grain de sel. Et puis, lorsque les documents sont arrêtés, sont en gros à peu près décidés, bon, il y a ce qu'on appelle les enquêtes publiques. Bon, là, on intervient de manière systématique, disons. Encore une fois, pour bien noter les points positifs qu'on trouve, hein, parce qu'il y en a toujours, hein, et puis les points qui pourraient quand même mériter d'être revus. Voilà. C'est comme ça qu'on fonctionne, et je pense que ce qui nous manque quand même, et ça c'est pour toutes nos activités, bien entendu, comme d'habitude, c'est d'avoir suffisamment de relais au niveau local. Encore une fois, on est une fédération d'associations, mais les associations ne sont pas si nombreuses que ça, et puis c'est un certain nombre de sujets sur lesquels qu'on doit aborder, en particulier les sujets d'urbanisme, d'aménagement, etc., sont quand même techniquement un petit peu délicats, comme d'autres, chacun a ses petites compétences, mais on ne les trouve pas évidemment répartis partout, etc. Et donc l'un des problèmes qu'on rencontre, une difficulté qu'on rencontre, mais à laquelle on s'attelle, c'est d'essayer de former les uns et les autres à trouver des bonnes méthodes pour analyser les projets. Encore une fois, analyser, ça ne veut pas dire critiquer au sens négatif du terme, ça veut dire critiquer au sens positif et négatif. Voilà ce que je voulais vous raconter sur la sobriété foncière. C'est un enjeu très très important parce que ça change fondamentalement la façon, ça devrait changer fondamentalement la façon de réfléchir au futur en termes d'aménagement. Et l'aménagement, c'est quand même assez fondamental pour la vie des uns et des autres d'aujourd'hui et de demain.
Michel Jacod, merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur ce sujet. Et donc cette émission sera en ligne, bien sûr, dans la journée et rediffusée plusieurs fois au cours de ce mois. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt sur Fréquence Mistral. Au revoir.
Au revoir.